Le monde est à nous.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
On en profite tous ensemble.
Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans et cet été, ils sont devenus les stars de RFI.
Aujourd'hui, comme chaque dimanche, ils vous invitent à les rejoindre sous les spotlights du studio pendant une heure. Ce sont eux, les dieux du micro.
Et derrière la vitre, il y a Victor, le grand Manitou du son. Et en plateau, les deux starlettes.
Salut, moi c'est Alice.
Salut, moi c'est Pauline.
Et tous les trois, on est fans de l'équipe des jeunes qui participent à cette aventure radiophonique.
Mais la plus grande star du monde est à nous, c'est toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors viens partager ton égo trip avec nous.
Aujourd'hui, on parle célébrité. Parce qu'on aimerait tous savoir ce que ça fait d'être une star, au moins une heure dans sa vie.
Ah ouais, mais parle pas au conditionnel, hein. Moi, j'ai pas abandonné l'idée d'être un jour adulée. Tu vois, être une star totale, avec la foule en délire sur mes tubes punk rock.
Ah ouais, ouais, c'est tout toi ça. Moi, tu vois, je m'imagine plutôt en couverture de magazine People, dans une tenue genre hyper glamour, sous le crépitement des flashs.
Quand on a préparé l'émission avec les jeunes, on s'est dit qu'au-delà d'être célèbre, on avait tous envie d'être au moins populaire. Ça commence au collège, quand t'es prêt à tout pour être le plus cool de ta classe.
Par exemple, Fanny nous a confié qu'elle avait tout fait pour s'incruster dans le groupe des meufs trop stylées, celles qui sortent en meute en ville pour faire leur belle.
C'est tout le contraire de Philippine qui a rétorqué qu'elle, la popularité, ça ne l'intéressait pas. De toute façon, c'était perdu d'avance, hein, parce qu'elle était dans la classe des intellos, ou des boulets, comme on dirait aujourd'hui.
Oumar, lui, il a un rapport ambigu à la popularité. C'est le gars trop marrant qui fait tout le temps des blagues, mais qui sait bien que tout ça, c'est quand même superficiel. C'est comme une drogue pour Oumar être aimé, il ne peut pas s'en passer.
Mais alors, être célèbre ou populaire, à quoi ça sert ?
Pour explorer ce désir d'être aimé de tous, comprendre les avantages mais aussi les inconvénients, on a invité deux experts en la matière. Loumna Abidar, actrice marocaine, elle interprète le rôle de Noa, une prostituée de Marrakech dans le film Much Loved de Nabil Ayouch. Ce rôle lui a valu le meilleur comme le pire, être en lice pour le César de la meilleure actrice en 2015, mais à son retour au Maroc, elle est traînée dans la boue, agressée, une vraie paria. Depuis plusieurs mois, elle est réfugiée en France où elle vit aujourd'hui.
Loïc Delnest, il a 25 ans, il est prof de sport dans des collèges et lycées de la région parisienne. C'est un poste d'observation idéal pour comprendre les jeunes et leur stratégie de popularité.
Loumna Abidar, Loïc Delnest, bonjour.
Lou, Philippine, Oumar, salut à vous.
Salut.
Bonjour Loumna, moi c'est Lou. Alors là, on vient d'entendre Wannabe des Spice Girls et je crois même que ça vous fait toujours même sourire. Alors vous racontez dans votre livre autobiographique La Dangereuse que vous avez été fascinée par ce groupe des années 90 quand vous étiez ado. Mais aussi par le cinéma, notamment les films égyptiens que vous regardiez en cachette à la télévision. À l'époque, vous ne connaissez pas le mot actrice pour parler de ces belles femmes que vous admirez à l'écran. Et du coup, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous utilisez le mot que vous entendiez à la maison et vous répondez « Plus tard, je veux être une pute ». Alors ma question, Loumna, c'est pourquoi dès le plus jeune âge, vous vouliez à tout prix être une actrice célèbre ?
Célèbre, je sais pas le mot célèbre, mais je voulais être une femme forte, une femme qui peut faire du maquillage, s'habiller comme ils veulent, une femme qui peut se fumer une cigarette, une femme qui peut parler à les hommes comme les femmes que je vois dans l'écran. Ça veut dire d'être une femme libre. Pour être une femme libre dans un monde islamique, un monde des hommes, un monde arabe, la seule solution que t'as, c'est de se battre et faire une guerre, toute une guerre derrière toi. Et le seul chemin que j'avais devant moi, c'est ça, c'est le cinéma.
Ces femmes au cinéma, c'était vos seuls modèles de femmes libres ?
Oui, parce qu'à la maison, j'avais ma grand-mère, j'avais toutes mes tantes, ma mère, elles étaient frappées tous les jours, elles n'avaient pas de parole, elles n'avaient pas de personnalité, elles avaient le droit à rien. Mais dans ces films, surtout les films de Youssef Chahine, je voyais la femme autrement.
Oumar ?
Alors Loïc, vous êtes prof de sport depuis 3 ans dans des collèges et lycées de la région parisienne. Et c'est vrai que pendant les années lycées, de nombreux adolescents font tout pour se faire marquer. Par exemple, moi en seconde, tout le monde s'était mis à fumer, un peu comme vous Loumna pour ressembler aux actrices des films égyptiens. Du coup Loïc, est-ce que vous observez ce besoin de se faire remarquer chez vos élèves lors de vos cours de sport par exemple ?
À petite échelle dans mon cours de sport, mais dès l'entrée au lycée le matin, dès la rentrée scolaire au tout début de l'année, tout de suite on essaye un petit peu de montrer qui on est, de montrer qu'on existe. Et c'est super important à l'école, au lycée, dans la vie, de montrer qu'on existe.
Voilà, à la rentrée, on se met au max avec les
voilà, on met notre plus belle tenue, on sort nos plus jolies baskets, et puis voilà, on essaye de se montrer.
Philippine.
Loubna, dans votre livre, vous racontez qu'après la présentation de Much Love à Cannes, donc le film de Nabila Ayouch qui a été présenté en mai 2015, vous rentrez au Maroc, vous avez reçu des torrents d'insultes sur Internet, et là vous décidez de porter la burqa pour vous protéger. Et puis en novembre de la même année, 2015, vous sortez sans ce que vous appelez ce déguisement, la burqa. Vous êtes reconnu dans la rue par un groupe d'hommes et vous êtes très très violemment agressé. Vous allez à l'hôpital, on refuse de vous soigner. Vous allez au commissariat, les policiers se moquent de vous. Et c'est là que vous décidez du coup de partir habiter en exil en France. Est-ce qu'on peut dire du coup que la célébrité, ça a détruit votre vie?
Non, au Maroc, j'étais célèbre bien avant le film. C'est pas la célébrité qui l'a détruit, c'est mon courage. C'est d'être une femme au milieu de beaucoup d'hommes et t'acceptes pas leur façon de penser. C'est ça qui a changé vraiment ma vie. Mais d'être célèbre, oui, il y a des choses qui sont bien ou des choses qui sont pas bien. On n'est pas toujours tranquille. On mange pas dans tous les restaurants qu'on a envie. On marche pas tranquille comme on a
envie. Même ici à Paris? Ici à Paris, est-ce qu'il y a des gens qui vous reconnaissent?
Surtout moi ici, quand je rentre dans un restaurant entre l'entrée et mon dessert, je mange pas, car il y a les gens qui viennent te voir pour poser des questions. C'est mignon, il y a que du bonheur là-dedans, mais tu manges pas, tu peux pas.
Donc vous avez beaucoup maigri en fait depuis le film.
J'essaye encore, j'ai ramené beaucoup de couscous et des tagines dans mon ventre ici, mais ça va, j'essaye.
Et au-delà de ça, comment vous avez vécu tout ça justement, de devoir quitter votre pays à cause de cette nouvelle célébrité encore plus forte que ce que vous aviez avant?
Alors moi normalement dans ma vie, je suis comme ça, je suis une femme forte qui ne pleure pas. Et toujours le mal et la mauvaise énergie, je la prends pour le bien et le bon énergie. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, surtout de la sortie du film jusqu'à la sortie de mon livre, parce que mon livre aussi, il a créé une polémique dans le monde musulman en général. Ça me donne la force et je suis très heureuse et très contente. Et aujourd'hui, quand je suis au Maroc et les gens me traitent des putes, je suis très contente, je suis très heureuse. Parce que le mot pute, pour moi, c'est pas une insulte dans le monde arabe. D'être une femme différente, une femme libre, ça veut dire que tu es une prostituée. Aujourd'hui, entre copines, aujourd'hui, pour qu'on se donne de courage entre nous, on se dit ça, bonjour la pute, ça va, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On se rencontre et la vie est belle. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Diamonds de Rihanna dans Le Monde est à nous.
Aujourd'hui, on parle de célébrité, mais aussi de popularité. Et le désir d'être aimé de tous, ça commence dès l'école. Toi, Oumar, pendant notre réunion de rédaction, tu nous expliquais que tu étais un peu le Eddie Murphy de ta classe, genre le Renoir à lunettes qui fait marrer les gens.
Vous aimez bien m'afficher dans cette émission, c'est un truc de ouf.
Notre grande passion.
Plus sérieusement, Loïc et Loubna, je me demandais si vous, quand vous étiez à l'école, vous étiez des fraîcheurs ou plutôt des bolos.
Comme on dit aujourd'hui, hein, peut-être qu'on disait pas pareil.
Voilà.
Enfin bon, Loïc, vous avez à peu près le même âge que les jeunes.
Oui, on disait ça, ouais.
Alors, est-ce que vous étiez des bolos ou des fraîcheurs?
Moi, j'étais un deux en un, en fait, je pense. Parce que j'ai eu des petits soucis de croissance. En fait, j'ai un retard osseux de 4 ans et demi. Donc, à l'âge de 16 ans, j'avais le corps d'un enfant de 11 ans et demi, si vous voulez.
Ah merde.
Donc, voilà. Sauf que j'avais la chance d'être doué quelque part. C'était au foot. Et donc, en fait, j'étais dans un centre de formation. Donc, j'étais avec une classe de footballeurs dans un lycée extérieur dans la ville de Clermont-Ferrand. Et si vous voulez, on était très bien vus dans cet établissement.
De l'aura du groupe.
Et, voilà, exactement. Et le fait d'être avec ce groupe de garçons, et les footballeurs du collège et puis du lycée par la suite, ça m'a peut-être beaucoup aidé. Donc dans le groupe de fraîcheurs, j'étais quand même le petit bolos, comme on dit. Mais j'ai pas eu de problème.
Tout
est relatif, ouais, exactement.
Et vous, Loubna, est-ce que vous étiez populaire quand vous étiez au collège?
J'étais très populaire pour deux choses. D'abord, j'étais un garçon manqué et j'étais toujours avec ma casquette, mon jean et tout ça. J'étais bien aimée de toutes les filles parce que je les protégeais. Et j'étais aussi très importante dans l'équipe de basketball. Alors, pour les garçons et tout ça, j'étais la plus importante et j'étais hyper méchante parce que je parle pas, je frappe direct.
Donc, vous étiez une vraie terreur, en fait.
Bah, c'est ça, oui.
Donc, pour être populaire, il faut terroriser les autres.
Mais je sais pas. Non, il faut pas dire ça. Mais quand j'étais petite, je vous jure, j'étais très méchante. Ça arrive de la maison parce que l'éducation chez nous, c'est pas comme chez vous. Moi, j'étais une petite fille frappée tous les jours pour rien. Et c'est normal que je prends ça pour l'école. À l'école, il y a la même chose. Si je frappe pas et je montre pas que je suis sauvage, ils vont me prendre. Alors, c'est mieux que je la fasse moi.
Mais c'est ambivalent parce qu'au début, vous nous expliquiez aussi que vous protégiez vos amis.
Bah oui, je protège toutes les filles qui ont besoin. Jusqu'aujourd'hui, je protège toutes les femmes dans mon pied qui ont besoin.
Donc, vous protégez, mais en même temps, vous pouvez être aussi agresseur.
Avec les gens qui méritent. Si tu es gentil, avec un bon sourire, tu fais pas de bêtises, tu peux écrire des fois pour moi. T'inquiète pas.
La juge, on va se tenir à carreau alors.
La juge Loubna Vidar.
Je fais le mec en place, t'es un canard. Bolos. En secret, tu lui envoies des roses. Bolos.
Salut tout le monde, on est avec Fabien. On est en train de faire le tour d'Ivry-sur-Seine, ville de Fabien. On va faire le tour de tous les collèges pour poser une question simple aux collégiens. C'est quoi la popularité au collège? C'est quoi être frais? C'est quoi être un bolos?
Un bolos. Déjà, un bolos, c'est un gars qui s'habille mal, c'est un gars qui se laisse faire, qui a pas trop de vie sociale, on va dire.
C'est surtout qu'il est timide aussi.
Ouais. Ouais, il est très timide.
Ouais, il parle jamais. Il parle jamais avec les autres.
Toi, est-ce que t'as un bolos?
Je sais pas, je me considère pas comme un bolos, mais pas comme un mec frais non plus, je suis normal, c'est tout.
Mes premières années au lycée, je faisais quoi? Je me habillais comme un clochard de fou. Et je mettais des joggings, que des joggings. Et les meufs, elles pétaient les plombs, oh, tout le temps au jogging, ça. Oh, dégueulasse, ça fait dégueulasse. Quand j'ai commencé à porter les vrais habits, les jeans, tout ça, les meufs, elles étaient choquées. Elles se sont dit, le rebelle là-bas, il est caramélisé, maman. Faut attaquer ça. Arrête, tu kiffes, toi, après.
Ouais, c'est ça aussi.
Mais ça vous saoule, ça, ou pas, parfois? Est-ce que t'as envie de mal te saper et tu dis, vas-y, si je m'habille mal, les gens, ils vont me saouler, etc. Parfois, vous,
non,
c'est chiant.
Il y en a, ils ont peur. Il y en a, ils sont peur. Ils se disent, ouais, non, lui, il va parler sur moi. Lui, il va dire je sais pas quoi. Ouais, et il y en a, ils en ont rien à faire. Genre, ils s'habillent comme ils veulent, ils assument, ils... Ouais, c'est ça en fait.
Genre, pour toi, il y a déjà un mec dans ta classe, il a fait un truc chelou, tu t'es dit, ouais, c'est un bolos.
Moi, je vais te parler de Sacha. Il met des strings, tout ça. C'est un ouf. Un jour, on l'a pris, on l'a enfermé dans les toilettes, on l'a mis à tête la première.
Là, et moi, justement.
Avant, il a fait boire l'eau dégueulasse.
Là, mais moi, justement, je suis pas de son avis. Parce que tu vois, le mec en question.
Sacha.
Sacha. Franchement, moi, je trouve que c'est pas un bolos. Moi, je trouve qu'il a des couilles. Parce que il faut en avoir dans le caleçon pour, tu vois, dans une classe où tout le monde met des survêtes, tout le monde essaie de faire passer pour un thug, mettre un string, tu vois. Tu connais un peu le rap?
Un peu, ouais.
Ouais, tu connais Young Thug. Tu vois, tout le monde l'a un peu critiqué comme lui. Tu vois, le rap, c'est un peu un milieu macho, un peu tout le monde. Tu vois, gros chaîne en or, tout ça. Mais lui, il est arrivé avec un style. Par exemple, il fait ses ongles, il met des jupes pour filles. Et tu vois, il l'assume complètement. Et moi, je trouve que faut en avoir des couilles. Par exemple, moi, je le ferais pas. Au fond, il est courageux, en fait. Il arrive et il s'en fout, tu vois, il reste lui-même. Et ça, franchement, c'est un exemple de courage.
Tu compares Sacha à Young Thug?
Non, mais faut, tu vois, c'est un exemple. Ma gueule.
Non, mais t'es vraiment bête.
Faut arriver, tu vois, Sacha, il arrive dans un milieu où personne n'est comme lui et il s'assume comme il est. C'est la même chose.
Mais toi, si tu dis ça devant tes potes, ils vont te traiter d'un télo, ils vont dire que t'es relou, ils vont dire que t'es un bolos.
Les gens, ils vont m'assimiler à lui, tu vois, et c'est pour ça que les gens, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. En fait, si tu regardes bien les gens, ils rangent toujours du côté de la majorité. C'est une règle assez absolue, tu peux pas changer ça.
Donc, tu dis pas d'un mec qu'il est populaire, tu dis qu'il est quoi?
Coté.
Ok, donc pour toi, c'est quoi un mec coté?
Un mec coté, c'est forcément un mec qui met la dernière sape, il a un statut un peu de mec à meuf, tu vois le délire. Et tu vois, ça y est, c'est quelqu'un qui a un peu une influence dans la classe ou dans le lycée qui va dire lui c'est un bolos, tout le monde va le suivre. Parce qu'il n'y a que des moutons, tu vois. Que les mecs cotés, c'est des cons, frère. Tu vois, c'est des moutons, c'est pas forcément des mecs intelligents. La plupart des mecs cotés que tu vois au lycée, ils sont même pas là pour étudier, ils viennent pour montrer leur dernière sacoche. En général, c'est pas des mecs très très intelligents.
Non, pour être un bête de mec, faut faire rire les gens, faut faire rire tout le monde.
T'es drôle?
Ouais.
Bah dis une blague maintenant.
Là. Ah là, dis une blague maintenant. C'est quoi une blague de mec bête de mec frère?
Attends. Pourquoi un poisson ne va pas en cours d'anglais?
Chiap.
Parce qu'il s'en fiche.
C'était le micro-trottoir d'Oumar et Fabien à Ivry-sur-Seine. Et Philippine, tu veux réagir?
Oui, parce que bon, la fin est drôle, le fiche, moi ça me fait beaucoup rire, mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même assez violent en fait ce qu'on entend dans ce micro-trottoir, notamment l'histoire du gamin à qui on met la tête dans les toilettes parce qu'il est pas comme tout le monde. Et du coup, je voulais vous demander, Loïc, pourquoi est-ce que, à votre avis, cette volonté d'être populaire, ça mène parfois à une violence comme ça, assez forte, quoi?
C'est vraiment une affaire de minorité et de majorité, hein. Entre le collège et le lycée, on est à un âge où on a besoin de se sentir épaulé et d'avoir
un groupe derrière soi.
Et on appuie très fort sur ce qui est un petit peu plus faible.
Donc voilà. On ne peut exister qu'en écrasant les autres, c'est ça que ça veut dire?
Oui, c'est ça.
Et vous, en tant que prof, dans votre cours ou à l'extérieur, vous avez déjà vu des scènes comme ça?
Alors, mettre la tête de quelqu'un dans l'eau des toilettes, non, mais c'est des petites choses par moment qui...
Par exemple,
en cours de sport.
La constitution des équipes, on met un chef d'équipe dans chaque équipe, on choisit chacun un joueur. On aime bien rigoler parce qu'à la fin, il reste le petit dernier, qui est tout le temps d'ailleurs petit dernier.
Et que j'étais souvent le petit dernier.
Voilà. Et ça fait rire tout le monde.
Et comment vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça?
Ah ben, on évite du coup, on fait une fois, puis quand on se rend compte que c'est plus possible, ben, on laisse pas aux élèves de faire les équipes.
Vous choisissez les équipes.
Voilà, y a un peu de pédagogie quand même dans notre métier, par moment, on essaie de faire ça bien.
Surtout que vous êtes jeune, vous avez 25 ans, donc c'était pas si loin pour vous tout ça.
Eh ben non, c'est pas si loin, mais à mon avis, ça existait déjà il y a des années, ça existera encore. C'est peut-être même pas une histoire de génération, c'est quelque chose qui arrivera toujours.
Oumar?
Alors vous, Loumna, comment on peut se protéger des risques de la célébrité, en fait? Parce qu'il y en a souvent aussi.
La violence qu'on a entendue.
Bah oui, pour se protéger, c'est un peu difficile, mais au lieu de choisir des bons amis, une très bonne bande, et laisser les autres, il faut pas se mélanger pour pas créer de problèmes, parce que la haine en ce moment et les problèmes, c'est très facile dans la tête des jeunes.
Donc la solidarité entre camarades, ça peut être
très important.
Une parade contre la violence de la célébrité.
C'est très important.
Vous, c'est comme ça que vous vous protégez? C'est avec des amis proches qui vous soutiennent?
Moi, aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai des amis proches, mais ils ont déjà fatigué, marre de moi et de me protéger, de me tenir. Parce que ma vie, moi, c'est dans un rythme très violent et ça se passe vite. Et chaque jour, j'ai 3-4 problèmes en ce moment. Ça fait un an, chaque jour, j'ai 3-4 problèmes entre les tribunaux, beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de femmes, ils ont la moitié de ma force de pas se casser, pas tomber. Nous, les femmes, en général, on est très sensible. On pleure très vite, on se fait mal à nous trop vite. J'y arrive aujourd'hui pour que je pleure pas, que je me fais pas mal.
Bon. Ouais. La célébrité, ça isole, mais ça renforce aussi.
Oui.
Le Monde est à nous, l'émission qui fabrique les stars. Aujourd'hui, on interroge ce désir qui sommeille en nous, celui d'être adulé de tous.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Oumar, Philippine et Lou continuent d'explorer les coulisses de la célébrité avec nos deux invités, Loubna Abidar et Loïc Delnès.
On se retrouve juste après Flash et les nouvelles du monde.
Le Monde est à nous.
Le Monde est à nous. Ouais,
plus de joie.
Ok, on est parti vite, on fait une vita.
Le Monde est à nous.
Parfait.
Ça c'est parfait.
Le Monde est à moi.
Le Monde est à toi.
Le Monde est à lui.
Le Monde est à elle.
Le Monde est à vous.
Le Monde est à eux.
Le Monde est à nous.
Le Monde est à nous.
We'll be right back.
Pauline Mocor, Alice Milo.
Salut à tous.
Le monde est à nous, c'est tous les dimanches de l'été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Aujourd'hui, on s'interroge sur la quête de célébrité, les strass et paillettes, quand les passants vous arrêtent dans la rue pour faire des selfies avec vous.
Mais aussi, à une plus petite échelle, on essaye de comprendre le désir largement partagé d'être populaire, à l'école, au travail, auprès des copains.
Dans le studio, l'actrice de cinéma marocaine Loubna Abidar et Loïc Delnest, jeune prof de sport qui enseigne dans des collèges et lycées de la région parisienne.
En première partie d'émission, Oumar, Philippine et Lou ont décortiqué les aspects négatifs de la popularité. Mais être célèbre a évidemment bien des avantages, n'est-ce pas Lou ?
Oui, Loubna, on vous a beaucoup vu profiter des médias pour défendre des sujets qui vous tiennent à cœur, notamment lorsque vous vous inquiétez pour les jeunes filles de campagne au Maroc dont vous parlez dans votre livre. Donc ma question, c'est finalement, est-ce que la célébrité vous a donné l'opportunité de devenir la porte-parole des sans-voix ?
Oui, parce que quand j'ai commencé, c'était avec des associations au Maroc avant que je devienne célèbre. Et c'était un petit peu difficile, même quand tu as besoin d'aide, quand tu as besoin des médecins, des médicaments, c'est toujours un petit peu difficile parce que tu es inconnu. Mais quand tu deviens connu, les gens, surtout les politiciens et des gens, quand s'approche des élections, ah oui, quelqu'un célèbre, on aide et on avance. Mais évidemment que ça aide. Je viens d'un pays qui on n'a pas le droit de dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, parce que je suis célèbre, je peux dire qu'est-ce que je veux sans risquer rien.
Et justement, quel est le message que vous transmettez ?
En ce moment, qu'est-ce qui me fait très mal, c'est question de le voile et la burqa et la femme dans l'islam et le nouveau islam et l'islamophobie.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je commence déjà avec le voile parce que dans la religion musulmane, ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle le voile. Question de la burqa aussi, ça n'existe pas dans la religion.
Donc c'est pas une obligation du Coran en tout cas,
mais
c'est ce que vous
voulez dire. Évidemment
que
ça n'existe même pas écrit nulle part. Ce sont des choses que des hommes, ils ont choisi pour faire mal à des femmes et avoir des esclaves et quatre femmes et encore plusieurs maîtresses sans personne ne lui dit quoi que ce soit.
Donc c'est l'instrumentalisation.
Voilà, ils ont fait ça à travers la religion.
Ça, c'est des choses que vous pouvez dire au Maroc quand vous êtes en voyage là-bas ?
Ben, moi, aujourd'hui, je dis tout parce que j'ai assez de procès contre moi.
Un plus, un moins.
Le pire qui m'est arrivé dans ma vie, il n'y a pas plus pire. Alors, je parle, j'ai pas peur.
Et j'ai une dernière question. Est-ce que finalement, vous aimeriez être pour les jeunes filles du Maroc une sorte d'inspiration ?
Aujourd'hui, je suis. Je suis même pour les filles qui n'ont pas le courage de le dire. Je reçois beaucoup d'emails et beaucoup de messages que les filles me disent bravo, merci, tu continues. Mais excusez-nous, on ne peut pas faire un commentaire ni j'aime parce que j'ai mon frère ou mon papa ami Facebook. Et ça, j'adore. C'est pour ça aujourd'hui, dans 2 semaines, j'ouvre une chaîne YouTube à mon nom. Je vais commencer avec une émission qui s'appelle Sans maquillage. Et je vais commencer vraiment à énerver les Marocains, parce que les Marocains, ils s'énervent 2 choses sur moi. D'abord, mon français. Ils détestent la façon comment je parle en français.
Pourquoi ?
Et ils veulent que je parle mieux que les Français le français. Mais je peux pas parce que je parle l'arabe mieux que les Français.
Ah, vous parlez très bien, hein. Ouais, ça va.
Et la deuxième chose, j'aurai une occasion de communiquer avec les femmes du monde entier et savoir tous les problèmes qui existent. On prend un sujet après l'autre, on le traite et on parle sans maquillage et aller jusqu'au bout.
Donc ça, c'est dès début septembre, on peut vous
voir
en vidéo.
Oui, le début septembre sans maquillage.
Sur YouTube. Philippine ?
Oui, donc du coup, votre célébrité, ça vous a permis de devenir encore plus un porte-voix et donc ça vous a apporté des choses positives. Et puis on l'a dit aussi, ça vous a apporté beaucoup de complications, notamment le fait que vous vivez aujourd'hui en exil en France. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que au fond, cette célébrité, cette exposition, elle vous a pas apporté la liberté ? Est-ce que finalement, tout ça, ça vous a pas permis de devenir la femme que vous vouliez être petite quand vous regardiez ces femmes libres dont vous parliez au début de l'émission ?
Je suis, ça m'a porter ça, je peux dire qu'est-ce que je pense à ma mère aujourd'hui, droit dans les yeux sans avoir peur. Je bois d'alcool, je mange de porc, je dis qu'est-ce que je pense, je m'assois pas dans les terrasses, toutes les choses qu'ils ont. J'ai des amis juifs, je peux aller en Israël,
et tout ça
peut être normal.
Et tout ça, ça aurait pas été possible si vous étiez pas
toutes ces choses que je viens de dire maintenant sont des choses interdites, sont des choses qui ramènent à l'enfer, c'est des choses qui interdisent une femme, elle puisse le dire, quoi. Moi, je le fais aujourd'hui.
Et justement, donc vous êtes libre, vous dites que vous pouvez parler librement à votre mère, mais du coup, est-ce que le revers de la médaille, c'est pas que cette liberté, cette célébrité, ça vous a en quelque sorte privé de l'amour de vos proches?
Tout ce bonheur et toutes ces paillettes et ces lumières sont payées. Moi, j'ai payé de mon amour, ma famille, mes proches, j'ai plus d'amis au Maroc, j'ai payé beaucoup de choses. Mais en échange, je suis une femme très heureuse, comme je dis, parce que je puisse marcher aujourd'hui dans la rue avec une cigarette dans ma main. Je puisse aujourd'hui m'asseoir dans une terrasse avec mes copines, je suis habillée comme je veux et j'ai pas des yeux qui me jugent. Personne ne va me traiter d'une prostituée seulement parce que j'ai un verre de vin rouge devant moi.
Le monde est à nous, on parle célébrité aujourd'hui mais aussi popularité. Kaina a voulu partager avec nous un souvenir marquant de ses années lycée.
Le monde est à nous.
Je me suis toujours demandé pourquoi je voulais tant devenir déléguée de classe. Est-ce que c'était pour me sentir plus responsable ? Ou une simple question d'ego, genre pour mesurer ma popularité ? Ou bien par pur altruisme, pour défendre mes potes pendant le conseil de classe ? Même si dans un coin de ma tête, je me disais que c'était un entraînement pour quand je serai présidente. Je vais être honnête avec toi, l'élection des délégués de classe, c'est parfois soldé par un échec. Bon, pas au point où j'étais la seule à voter pour moi. Mais je te cache pas qu'au moment du résultat, j'avais envie de me cacher. Tiens, par exemple, quand j'étais en seconde au lycée, grosse défaite. T'as la prof principale qui annonce que dans quelques jours aura lieu l'élection, et là, dans ma tête, c'est le feu.
Hi. Tu connais.
This girl is on fire.
J'imaginais déjà la tenue que je porterais et le discours que j'irai devant toute la classe. J'ai même proposé un programme. Si vous votez pour moi, je vous défendrai au conseil de classe.
Eh, c'est nul.
Pété.
Ouais, bon, j'avoue, c'est pas très original. Mais je vous épargne, le très utopiste, si vous votez pour moi, on ira en voyage scolaire.
Wouh !
D'ailleurs, c'est sûrement à cause de ces slogans tout pourris que j'ai pas été élue. Après cet échec, j'étais gênée et j'ai fait genre, de toute façon, mais je m'en fiche, je me suis juste présentée pour rire.
Mytho !
Mais au fond, j'étais blessée et je me suis dit que j'étais pas assez aimée.
Miskina.
Et puis, l'année scolaire suivante, je persévère. Si cette année je suis pas élue, c'est que je suis franchement une bolosse.
Je veux pas de bolosse dans
ma life.
La life. Je veux pas de bolosse dans ma life.
Et puis, rembobine.
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 On avait des t-shirts sales et des taches d'huile sur nos jeans. On squattait au marché, on tapait des masses
sur système.
Dembar semblait à Michael
quand il mettait pas de crème.
Encore un discours et même un slogan. Vote pour Kaina, celle qui te défendra.
Eh, t'es nul en slogan. T'es
Merci.
Vraiment nul.
On procède au dépouillement. Comme d'habitude, on a le droit à des comiques qui votent pour
Pika Pika Pikachu
ou Bob l'éponge à la place de nos prénoms. Ensuite, on décompte les voix. Et devine quoi ?
Mais non.
Je suis élue déléguée !
Wouh ! We are the champions de my friend.
Là, je me sens au summum de la popularité. Je suis la resta de la classe. Limite, j'ai envie de signer des autographes. Je te jure, quand t'es déléguée, tu te sens grave frais. En plus, même ma mère était fière de moi. Et me dis pas que j'exagère, parce que je suis sûre que toi aussi, tu t'es dit que c'était le début d'une longue carrière. Bon, dans quoi, je sais pas, mais laisse-moi kiffer ma victoire. Après, crois pas qu'être délégué, c'est tout repos. Et oui, au-delà des strass et des paillettes, il y a aussi un travail à fournir. Porte-parole officielle de mes camarades de classe, avocate du diable par moment, grande oratrice à mes heures perdues, et aussi démagogue averti, parce que ok, je défends mes potes, mais c'est toute une stratégie de le faire sans froisser les profs. Je suis devenue une pro, et toi, qui m'écoutes, tiens, la prochaine fois, essaie ce slogan. Tu veux pas de blême pro? Alors vote pour moi, bro.
Hi,
bro.
Oh my gosh. Baby, let me... I did it again, so I'm gonna let the... Oh my... Baby, let me love you down.
c'était Kaina, la starlette du Monde est à nous. Et surtout, surtout, chers auditeurs, nous vous invitons à aller écouter les autres chroniques déléguées de classe. Oumar et Fabien vous racontent leur stratégie pour être populaire et avoir plein d'amis.
C'est sur les réseaux sociaux.
Et ça vaut le détour. N'est-ce pas, Oumar ? Les élections de délégués de classe, c'est le moment crucial de l'année scolaire pour toi.
Ah mais grave, le jour où j'ai gagné contre Pierre, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et justement, je voulais vous demander, Loïc, si les profs pensent qu'une élection déléguée peut avoir des vertus pédagogiques en termes de confiance en soi.
Alors, très franchement, l'élection de délégués, c'est quelque chose qui sera rapidement à revoir. Parce que, généralement, les plus populaires sont ceux qui font plus peur. Et c'est ceux qui sont souvent un petit peu élus. Et c'est des gens qui ont déjà bien confiance en eux. Et ça apporte pas grand-chose à ceux qui ont justement pas beaucoup confiance en eux. Puisque c'est des gens qui
sont vraiment... élus parce que je faisais peur, justement.
Mais est-ce qu'ils font bien le job ?
Ouais. Et ben justement, absolument pas.
Est-ce que aussi l'établissement leur laisse la possibilité justement de faire un vrai travail de délégué ?
Ah ben c'est quelque chose qui a été fait cette année chez nous. Avant d'élire les délégués, on a proposé aux élèves de s'inscrire à une formation de délégués. Et uniquement ceux qui étaient à la formation de délégués pouvaient être élus délégués. Donc ceux qui ne voulaient pas être délégués pour être délégués ne voulaient pas se taper des heures de formation délégués pour...
ça permettait de faire le tri.
Ouais, c'est un vrai métier, voilà. Délégué.
Voilà. C'est un vrai métier, tout à fait. Mais c'est important, hein. C'est important d'être délégué.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi je voulais par contre juste clarifier quelque chose. Pourquoi les mecs populaires sont souvent ceux qui ont 21 sur 20 en sport ? Non, parce que vraiment, ils m'énervent.
Est-ce que le fait d'être bon en sport, ça rend populaire ?
Ah, alors oui. Je pense que... Ouais. Le cours de sport, bon, on est dans une discipline où il y a un gagnant et un perdant. Donc, souvent, quelqu'un qui a des bonnes notes et qui est bon en EPS, c'est quelqu'un qui physiquement est relativement...
Bien fort,
voilà. Ouais.
Donc il se fait respecter des autres.
Et justement, Loïc, on a mené notre petite enquête et on sait que vous êtes un prof super populaire, notamment auprès des jeunes filles qui sont toutes amoureuses de vous. En même temps, quand je vous vois, j'ai l'impression...
Loïc est très beau, hein, il faut le préciser.
J'ai l'impression que c'est le seul prof qui... C'est le seul prof de sport qui fait du sport, en réalité. Et du coup, pour moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est important quand on est prof d'être populaire ?
Moi, j'ai vite compris qu'il fallait être populaire dans le bon sens. En début d'année, quand on fait la rentrée, on a notre cahier correspondance et puis on a la liste de nos professeurs. Et c'était important, je pense, de savoir que quand les élèves allaient savoir qu'ils avaient M. Dallès en EPS, ça allait être une bonne nouvelle.
Mais pour vous, pour votre ego ou parce que vous travaillez mieux si vous êtes populaire ?
Et ben, c'est pour mieux travailler, clairement. Hein. Pour mon ego, à la limite, j'ai une vie à côté du travail. Pour bien travailler, c'est
Mais ça
c'est
joue où ? Au niveau de la discipline, par exemple ?
Ouais, avec de la discipline, tout à fait, ouais.
Vous pouvez être exigeant avec eux si vous aimez.
Exactement, il m'est arrivé d'avoir des accrochages avec des élèves pour x ou y raison, en ayant très rapidement des excuses sans demander, puisque
c'était
un lien qu'on avait créé rapidement.
Et vous allez leur faire écouter Le Monde est à nous pour leur montrer à quel point vous êtes un mec frais ?
Oui.
Le Monde est à nous.
Le monde est à nous. Devenir célèbre peut arriver très vite dans une vie. C'est le cas de Hopley. Il a la vingtaine. Il a grandi à la Grande Borne à Grigny dans l'Essonne. Et c'est Snapchat qui l'a rendu célèbre grâce à des vidéos où il raconte son quotidien. Kaina et Fabien, qui sont tous les deux des grands fans d'Hopley, ont eu la chance de le rencontrer.
Ah là là, ils ont mis la sirène, la Hopley Family, on est fait comme des rats.
Il y a un notebook derrière.
Il y a un notebook derrière en plus. Aïe.
Ça te dérange, donc on commence là, c'est bon ?
Non, on peut commencer.
Donc alors, Hopley, c'est qui ?
Mais c'est un jeune de Grigny. Grigny, c'est ma ville, ma cité, c'est la Grande Borne. Un jeune qui, on va dire, snapper. Aujourd'hui, je suis un snapper, je suis sur Snapchat. J'utilise l'application Snapchat et voilà. Et moi, j'ai commencé l'été dernier. J'ai essayé, en fait, je suis sorti dehors. J'ai fait ma journée. J'étais en garde à vue, j'ai raconté comment ça s'est passé. J'ai enregistré, j'ai mis sur Facebook et là, ça a explosé. Hein. En fait, l'histoire de la garde à vue, c'est... Je devais me rendre à un rendez-vous important. Et moi, t'as vu, j'ai pas le permis, mais je me permets. Et je vois la police. Ils me contrôlent. Et au moment où ils arrivent, comme moi, je savais que j'avais pas le permis et ça faisait trop de fois que je m'étais fait arrêter, j'ai ouvert la porte côté conducteur, je me suis mis côté passager, j'ai fait semblant de dormir. Eux, ils ont vu ça, ils ont dit, il est fou, lui. Ils ont rigolé. Moi, je me suis dit, c'est bon, là, ils vont pas m'emmener parce qu'ils étaient pliés. J'ai dit, ça va passer. Mais après, il y en avait un, il était énervé. Il a dit, non, arrête de me prendre pour un con et tout. Après, ils m'ont embarqué. C'est ça l'histoire en fait.
Aujourd'hui, t'es populaire à quel point en fait ?
C'est un truc de fou. Je marche dehors, les gens me reconnaissent et tout, ils me prennent en photo. Même je reçois des snaps d'autres pays et tout.
Sur Snapchat, t'es suivi par combien de personnes aujourd'hui ?
Plus de 200 000. Hein. Le grand public, c'est les petits. J'habite juste à côté d'une école. Le matin, quand ils vont à l'école, ils chantent mon son. Il y en a, ils courent, les loups, tu vois. Moi, j'entends ça, je suis dans mon lit, je rigole. Je savais pas, moi, ça allait faire tout ça. Et ce qui est bien, c'est que je suis moi-même. Il y en a plein, tu vois, ils jouent des rôles et tout. Alors que moi, je suis moi-même, c'est ma vie, en fait, qui fait tout ça. C'est ça qui est bien, tu vois.
Mais justement, toi, ta popularité, tu la vis comment ?
En fait, j'ai pas encore réalisé. Peut-être un jour, je vais me poser, je vais... Je sais pas, peut-être je vais chialer, peut-être je vais péter les plombs, tu vois, tu sais pas.
Toi, est-ce qu'il y a un message que tu veux véhiculer à travers tes snaps ou pas ?
Ouais, moi, mon message, c'est... Dans la vie, tu peux avoir des problèmes. On a toujours des problèmes. La solution, c'est la joie. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais parti au Congo. Moi, je suis originaire du Congo. Là-bas, c'est la misère, mais les petits, ils font que de rigoler, tu vois ? Que ils rigolent. Et voilà, moi, je m'inspire de ça. Le garçon, là, que vous voyez devant vous, c'est un garçon qui a été beaucoup déçu, qu'on a beaucoup menti, j'ai beaucoup pleuré, j'ai vécu des choses dans ma vie, des choses trop tristes. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je rigole. Moi, mon grand rêve, c'était d'être footballeur professionnel. J'avais tout, j'étais en centre de formation et tout. J'étais même en équipe de France, tout se passait bien. Il y a trop de choses à dire et tout.
Et est-ce que justement là, le fait que tu sois connu et tout, pour toi c'est une sorte de revanche ? Genre tu leur dis, voilà, ok certes, je suis pas connu grâce au foot, mais là je suis connu, genre cheikh, tu vois, voilà. Ça te fait quoi, toi ?
Moi, mon message pour les jeunes, pour ceux de ma génération, pour tout le monde, c'est de croire en soi. Après, je veux qu'aussi les petits, ils se disent, on n'est pas condamné à l'échec, tu vois. Avec rien du tout, tu peux créer. Moi, j'étais là, j'avais rien, j'étais dans mon coin. J'ai utilisé Snapchat sans faire exprès et je suis en train de créer des choses. Il y a le textile, il y a la musique. Je vais être acteur, là, je vais faire des cours de théâtre, je vais sortir ma série, etc. Voilà, j'enchaîne.
Snapchat, en soi, ça, moi, je me dis, ça rapporte pas de thunes. Ça rapporte Snapchat. Pas d'argent. Ouais.
Si, Snapchat, tu gagnes de l'argent. Comment ? Moi, je gagne de l'argent. Comment ? C'est en faisant des petites pubs. Un exemple, Nike, ils vont sortir une nouvelle paire de chaussures. Ils vont me la donner. Moi, je vais faire des vidéos, je serai avec la paire de chaussures, les gens, ils vont voir et tout, tu vois, des petits trucs comme ça.
Toi, jusqu'où tu irais pour créer le buzz, pour être populaire, enfin, pour être plus célèbre et tout ça ?
Moi, je suis sans limite, en fait. Je suis toujours à la limite de la grosse bêtise, mais je la fais pas. Je suis comme ça, en fait. Moi, n'importe où, je vais snapper, tu peux me ramener devant n'importe quel président, n'importe qui, je vais faire un snap. S'il faut le vanner, s'il faut attaquer son costard, je vais l'attaquer. Si sa coupe de cheveux, elle est pas bonne, je vais l'attaquer, en fait. Pour moi, vous êtes tous des humains. J'ai pas de limite, en fait. Je suis comme ça.
C'est grâce à Snapchat qu'Oplay est devenu célèbre. Oumar, tu as une question pour Loubna.
Alors effectivement, vous, Loubna, les réseaux sociaux vous ont plutôt valu des messages d'insultes et des menaces suite à la sortie de Much Loved. Pourtant, vous continuez à utiliser ces réseaux sociaux pour faire passer vos messages. Vous avez notamment fait appel au roi du Maroc, Mohamed VI, à la suite de votre agression. Du coup, je me demandais si pour vous, ce nouveau type de média, c'était un atout ou un danger ?
Bah, les deux en même temps. Aujourd'hui, j'ai la force, j'accepte d'être insultée parce que j'ai seulement un compte. Il y a 5 ou 6 pages que c'est pas à moi. Il y a 140 comptes à mon nom, mais c'est pas moi.
Vous parlez de Facebook ou Twitter?
Sur Facebook. Twitter, il y en a 5 ou 6 et moi, j'ai pas Twitter.
Les gens sont passés pour vous.
Ouais, et ça marche, hein. Ça marche.
Et très comment on peut faire la différence? Comment les auditeurs peuvent savoir que c'est le vôtre, celui-là?
Alors, ben, moi, j'ai fait des vidéos. Une fois par semaine, je fais des petites vidéos et ça a commencé. J'ai fait seulement un compte, pas une page. Aujourd'hui, j'ai 90 000 suivis sur ce compte. Personne ne m'insulte dans ce compte, mais je rentre dans les autres comptes pour voir les insultes.
Et vous ne pouvez pas les faire fermer ?
Impossible. Facebook, ils ont marre de moi. Non, mais c'est vrai, ils ont marre de moi de fermer, ils peuvent plus. Il y en a des pages que tu peux pas fermer parce qu'ils sont dépassés à 500 000 suivis, par exemple. Comment tu vas
plus
le fermer?
Plus que vous, carrément.
Lou?
Loubna, dans La Dangereuse, votre livre autobiographique, on apprend que certaines actrices au Maroc sont obligées de coucher afin d'être rémunérées par leur réalisateur. Du coup, c'est vraiment la célébrité à tout prix. Et moi, ce que je me demandais, c'est quelle est pour vous, en fait, la frontière à ne pas franchir?
C'est difficile, ça. D'abord, c'est pas seulement au Maroc, c'est un peu dans le monde entier. Ça existe même ici en France. Mais pas beaucoup, pas sauvagement, de la façon qu'il y a chez moi. J'étais la première actrice arabe qui a parlé de ça. Et derrière moi, il y avait beaucoup des actrices dans le monde arabe qui ont confirmé ce que je dis.
Le monde est à nous. Voici venu le moment de la minute de Mémé.
Chaque dimanche, un jeune de l'équipe rencontre une grand-mère pour lui demander comment c'était à son époque et quels conseils elle pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui.
Philippine a passé un coup de fil à Michelle. Elle est devenue célèbre du jour au lendemain dans les années 70 en Grèce. Elle était sur la plage quand un producteur de cinéma l'a repérée pour tourner dans un film à succès.
Mes petits agneaux,
c'est l'heure de faire marcher vos neurones.
Oh, ben j'ai des connaissances et...
Ah oui?
Et on m'appelle mamie.
T'es super.
Bon, alors, allons-y.
Et tu vas voir que personne va me dire merci.
Bonjour, grand-mère.
Allô?
Oui, Michel?
Oui.
Bonjour, c'est Philippine de la radio
oui,
RFI.
Oui.
Je vous dérange pas?
Pas du tout, ça va.
Alors, est-ce que, pour commencer, vous pouvez me raconter comment vous êtes devenue célèbre du jour au lendemain?
Le moment où j'ai compris que ça prenait des proportions un peu grandes, c'est le moment où j'ai vu l'affiche. Il y avait marqué « La nouvelle bébé grec ».
Qu'est-ce que ça vous a fait d'être associée à Brigitte Bardot?
C'était un peu énorme pour moi. Et puis tout d'un coup, dans la rue, on m'a reconnue.
Les gens, ils vous disaient quoi quand ils vous abordaient
dans la rue? Ils pensaient que j'étais une star depuis longtemps. Et simplement, après, ça a amené plein d'autres choses. On m'a appelée pour faire plein de photos. J'ai fait des magazines. Après, j'ai fait le calendrier de la Grèce. J'étais choyée. C'était incroyable. À un moment donné, je crois que la France me manquait. J'ai eu envie de rentrer. Je suis rentrée en France. Et là, je suis rentrée avec beaucoup d'argent. C'était bien, j'étais partie sans argent, je suis rentrée avec beaucoup d'argent. Et en France, je me suis retrouvée, peut-être encore un peu à faire des choses de mannequin ou des trucs comme ça, parce que voilà, il fallait bosser. Et puis, je me suis inscrite au cours de théâtre. Mais je crois qu'en rentrant, ça a été plutôt difficile, parce que j'avais pas envie de tenir cette image en France, surtout pas. Et je crois que je me suis pas mal démolie.
Mais pourquoi?
C'est encombrant, parce qu'on a l'impression que les gens ne vous voient qu'à travers ce miroir. Je crois que je me suis d'abord coupé les cheveux n'importe comment, je me suis habillée très mal, je me suis mise en garçon manqué, mais plus que ça, je me suis abîmée physiquement parce que j'ai pris des choses qui m'ont fait du mal à la santé.
C'est-à-dire?
Je me suis droguée, voilà, j'ai pris des choses qui étaient pour casser ce personnage qui m'avait finalement encombré.
Donc vous, qui avez connu quand même le pouvoir destructeur en fait de la célébrité, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces jeunes? Comment on s'en protège?
Ma fille, à un moment donné, elle devait avoir 15 ans, elle a voulu tenter d'être mannequin, d'accord? Mm-hmm. J'avais un ami qui avait une agence de mannequin, je dis on va t'amener là-bas, tu vas voir. On y est allé. Déjà, justement, la femme lui a dit, t'as encore des petits boutons, il va falloir mettre de la pommade à la je sais pas quoi, prendre des antibiotiques pour ta peau, il faut que tu changes tes sourcils, il faut que... Voilà. J'ai laissé ma fille entendre ça, et on est sortis. Et je dis, t'as vraiment envie de devenir ça? Et tu veux faire la queue pour une photo, être de la viande dans la queue, et qu'on te choisisse, toi, le bistec machin, plutôt que la côtelette machin? C'est ça que tu veux? Et moi, j'en ai pleuré. J'en pleure encore d'émotion. Mais j'en ai pleuré quand elle m'a demandé ça. C'est pas possible.
Merci, grand-mère.
C'était Mémé Michel. Philippine, c'est toi qui l'as interviewée, et tu as une question pour Loubna.
Oui, est-ce que vous, Loubna, vous avez parfois envie de revenir à l'anonymat?
Des fois, oui. Vous savez, les gens qui méritent d'être célèbres en cinéma ne sont pas célèbres. Parce que les gens qui travaillent beaucoup, qui grâce à eux, ça existe un film, on ne le voit pas.
Parce les petites fourmis.
Voilà, pour que je sois moi bien, j'ai toute une équipe derrière moi qui, moi, peut-être, je dors 9 heures, elles ne dorment pas. Et à la fin, c'est moi qui je suis devant la caméra quand même. Je ne trouve pas bien ça.
Tout comme le monde, l'heure tourne.
En guise de bilan, nous posons cette question à tous nos invités, c'est la question à 20 ans.
Moi, je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Lou, à toi l'honneur.
Loubna, est-ce que si à 20 ans vous aviez su que la célébrité apporterait autant de complications dans votre vie, vous auriez quand même persévéré dans cette voie?
Oui. Parce que je savais déjà à 20 ans ça va être, parce que je suis femme, musulmane, arabe, j'arrive du Maroc, je savais depuis le début. Moi j'adore les choses, quand tu me dis fais pas ça, ça va te porter des problèmes, alors c'est ces problèmes que je veux comprendre dans la vie.
Loubna Abidar, Loïc Delnest, c'est un rituel pour tous nos invités, on leur demande d'apporter un objet qui parle d'eux. Vous, qu'est-ce que c'est?
Moi je vous ai apporté un poster de football, un vieux poster, un très vieux poster.
À l'ancienne, avec Ronaldo.
Avec Ronaldo qui est un joueur qui était au sommet de sa carrière quand moi j'étais jeune, donc je devais avoir 5 ou 6 ans. À l'âge où j'ai démarré le football aussi. Et donc c'était un modèle, une idole, c'était en plus de la passion du football, c'était quelqu'un de très bien, quelqu'un de célèbre, que tout le monde aimait. Et c'est forcément quelqu'un à qui je voulais ressembler.
Loubna?
Alors moi, tous mes souvenirs, toutes mes choses sont derrière moi au Maroc. mais je porte une chose très importante pour moi que je suis obligée de voir tous les jours. Là, j'ai reçu ça cette année en France, quand j'étais sélectionnée dans les Césars, meilleure actrice.
C'est une petite plaque de verre. Et en fait, il y a un espèce... il y a comme un diplôme, en fait,
c'est
au
ça,
milieu.
C'est comme un petit diplôme.
Avec votre
ça.
Nom, Lubna Abidar, meilleure actrice, much loved.
L'a bien expliqué, vous voyez.
Mais je trouve ça très beau, en fait.
Ouais. C'est très beau et aussi pour moi, c'est très important parce que chaque matin, j'ai gagné beaucoup de prix dans ma vie. Et ça, pour moi, ça vaut tous les prix que j'ai gagné toute ma vie. C'est les Césars quand même. Et j'étais devant des actrices que j'ai toujours rêvé de faire la moitié de leur carrière.
Juste avant de se quitter, la séquence de dédicace, Philippine.
Tous ceux qui n'ont pas voulu être mon ami au collège parce que j'étais pas assez populaire. Et puis surtout à tous ceux qui ont bien voulu être mon ami.
Lou.
Alors moi, dédicace à Zoé parce que c'est ma star.
Oumar.
À Kaousmane et à tous les auditeurs en Afrique.
Et mention spéciale pour Victor Hull de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci Lubna Abidar, Loïc Delnest d'être venu nous raconter la face cachée de la célébrité et de la popularité.
Le monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais on se retrouve la semaine prochaine.
Lou, Thomas, Philippine, Calypso, Kaina et Fanny imagineront le monde de demain. On décollera pour la planète RFUS.
Si tu trouves le temps trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Salut à tous.
Salut.